première partie, chapitre 4. Ce génie, dont l'interprétation de la Berma n'était seulement que la révélation, était-ce bien seulement le génie de Racine? Je le crus d'abord. Je devais être détrompé une fois l'acte de Phèdre fini, après les rappels du public, pendant lesquels la vieille actrice rageuse, redressant sa taille minuscule, posant son corps de biais, immobilisa les muscles de son visage et plaça ses bras en croix sur sa poitrine pour montrer qu'elle ne se mêlait pas aux applaudissements des autres et rendre plus évidente une protestation qu'elle jugeait sensationnelle, mais qui passa inaperçue. La pièce suivante était une des nouveautés qui jadis me semblait, à cause du défaut de célébrité, devoir paraître mince, particulière, dépourvue qu'elles étaient d'existence en dehors de la représentation qu'on en donnait. Mais je n'avais pas, comme pour une pièce classique, cette déception de voir l'éternité d'un chef-d'œuvre ne tenir que la longueur de la rampe et la durée d'une représentation, qui l'accomplissait aussi bien qu'une pièce de circonstance. Puis, à chaque tirade que je sentais que le public aimait et qui serait un jour fameuse, à défaut de la célébrité qu'elle n'avait pu avoir dans le passé, j'ajoutais celle qu'elle aurait dans l'avenir, par un effort d'esprit inverse de celui qui consiste à se représenter des chefs-d'œuvre au temps de leur grêle apparition, quand leur titre, qu'on n'avait encore jamais entendu, ne semblait pas devoir être mis un jour, confondu dans une même lumière, à côté de ceux des autres œuvres de l'auteur. Et ce rôle serait mis un jour dans la liste de ses plus beaux, auprès de celui de Phèdre. Non qu'en lui-même il ne fût dénué de toute valeur littéraire, mais la Berma y était aussi sublime que dans Phèdre. Je compris alors que l'œuvre de l'écrivain n'était pour la tragédienne qu'une matière, à peu près indifférente en soi-même, pour la création de son chef-d'œuvre d'interprétation, comme le grand peintre que j'avais connu à Balbec, Elstir, avait trouvé le motif de deux tableaux qui se valent dans un bâtiment scolaire sans caractère et dans une cathédrale qui est par elle-même un chef-d'œuvre. Et comme le peintre dissout maison, charrette, personnage dans quelque grand effet de lumière qui les fait homogènes, la Berma étendait de vastes nappes de terreur, de tendresse, sur les mots fondus également, tous aplanis ou relevés, et qu'une artiste médiocre eût détachés l'un après l'autre. Sans doute, chacun avait une inflexion propre, et la diction de la Berma n'empêchait pas qu'on perçût le vers. N'était-ce pas déjà un premier élément de complexité ordonnée, de beauté, quand, en entendant une rime, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois pareil et autre que la rime précédente, qui est motivée par elle, mais y introduit la variation d'une idée nouvelle. On sent deux systèmes qui se superposent, l'un de pensée, l'autre de métrique. Mais la Berma faisait pourtant entrer les mots, même les vers, même les tirades, dans des ensembles plus vastes qu'eux-mêmes, à la frontière desquelles c'était un charme de les voir obligés de s'arrêter, s'interrompre. Ainsi, un poète prend plaisir à faire hésiter un instant à la rime, le mot qui va s'élancer, et un musicien à confondre les mots divers du livret dans un même rythme qui les contrarie et les entraîne. Ainsi, dans les phrases du dramaturge moderne, comme dans les vers de Racine, la Berma savait introduire ces vastes images de douleur, de noblesse, de passion, qui étaient ses chefs-d'œuvre à elle, et où on la reconnaissait, comme, dans des portraits qu'il a peints d'après des modèles différents, on reconnaît un peintre. Je n'aurais plus souhaité, comme autrefois, de pouvoir immobiliser les attitudes de la Berma, le bel effet de couleur qu'elle donnait un instant seulement dans un éclairage aussitôt évanoui, et qui ne se reproduisait pas, ni lui faire redire 100 fois un vers. Je comprenais que mon désir d'autrefois était plus exigeant que la volonté du poète, de la tragédienne, du grand artiste décorateur qu'était son metteur en scène, et que ce charme, répandu au vol sur un vers, ces gestes instables, perpétuellement transformés, ces tableaux successifs, c'était le résultat fugitif, le but momentané, le mobile chef-d'œuvre que l'art théâtral se proposait et que détruirait, en voulant le fixer, l'attention d'un auditeur trop épris. Même, je ne tenais pas à venir un autre jour réentendre la Berma. J'étais satisfait d'elle. C'est quand j'admirais trop pour ne pas être déçu par l'objet de mon admiration que cet objet fut Gilberte ou la Berma, que je demandais d'avance à l'impression du lendemain le plaisir que m'avait refusé l'impression de la veille. Sans chercher à approfondir la joie que je venais d'éprouver et dont j'aurais peut-être pu faire un plus fécond usage, je me disais, comme autrefois certains de mes camarades de collège, c'est vraiment la Berma que je mets en premier. Tout en sentant confusément que le génie de la Berma n'était peut-être pas traduit très exactement par cette affirmation de ma préférence et par cette place de première décernée, quelque calme d'ailleurs qu'elle m'apportasse. Au moment où cette seconde pièce commença, je regardais du côté de la baignoire de Madame de Guermantes. Cette princesse venait, par un mouvement générateur d'une ligne délicieuse que mon esprit poursuivait dans le vide, de tourner la tête vers le fond de la baignoire. Les invités étaient debout, tournés aussi vers le fond, et entre la double haie qu'il faisait, dans son assurance et sa grandeur de déesse, mais avec une douceur inconnue que d'arriver si tard et de faire lever tout le monde au milieu de la représentation mêlait aux mousselines blanches dans lesquelles elle était enveloppée, un air habilement naïf, timide et confus qui tempérait son sourire victorieux. La duchesse de Guermantes, qui venait d'entrer, alla vers sa cousine, fit une profonde révérence à un jeune homme blond qui était assis au premier rang et, se retournant vers les monstres marins et sacrés flottant au fond de l'antre, fit à ces demi-dieux du jockey-club, qui à ce moment-là, et particulièrement M. de Palancy, furent les hommes que j'aurais le plus aimé être, un bonjour familier de vieil ami, allusion à l'au jour, le jour de ses relations avec eux depuis 15 ans. Je ressentais le mystère, mais ne pouvait déchiffrer l'énigme de ce regard souriant qu'elle adressait à ses amis, dans l'éclat bleuté dont il brillait, tandis qu'elle abandonnait sa main aux uns et aux autres, et qui, si j'eusse pu en décomposer le prisme, en analyser les cristallisations, m'eût peut-être révélé l'essence de la vie inconnue qui y apparaissait à ce moment-là. Le duc de Guermantes suivit sa femme. Les reflets de son monocle, le rire de sa dentition, la blancheur de son œillet ou de son plastron plissé, écartant pour faire place à leur lumière ses sourcils, ses lèvres, son frac, d'un geste de sa main étendue qu'il abaissa sur leurs épaules, tout droit, sans bouger la tête, il commanda de se rasseoir aux monstres inférieurs qui lui faisaient place, et s'inclina profondément devant le jeune homme blond. On eût dit que la duchesse avait deviné que sa cousine, dont elle raillait, disait-on, ce qu'elle appelait les exagérations, non que, de son point de vue spirituellement français et tout modéré, prenait vite la poésie et l'enthousiasme germanique, aurait ce soir une de ces toilettes où la duchesse la trouvait costumée, et qu'elle avait voulu lui donner une leçon de goût. Au lieu des merveilleux et doux plumages qui de la tête de la princesse descendaient jusqu'à son cou, au lieu de sa résille de coquillages et de perles, la duchesse n'avait dans les cheveux qu'une simple aigrette, qui, dominant son nez busqué et ses yeux à fleur de tête, avait l'air de l'aigrette d'un oiseau. Son cou et ses épaules sortaient d'un flot neigeux de mousseline, sur lequel venait battre un éventail en plumes de cygne. Mais ensuite la robe, dont le corsage avait pour seul ornement d'innombrables paillettes, soit de métal, en baguettes et en grains, soit de brillants, moulait son corps avec une précision toute britannique. Mais si différentes que les deux toilettes fussent l'une de l'autre, après que la princesse eut donné à sa cousine la chaise qu'elle occupait jusque-là, on les vit, se retournant l'une vers l'autre, s'admirer réciproquement. Peut-être Madame de Guermantes aurait-elle le lendemain un sourire quand elle parlerait de la coiffure un peu trop compliquée de la princesse. Mais certainement, elle déclarerait que celle-ci n'en était pas moins ravissante et merveilleusement arrangée. Et la princesse, qui, par goût, trouvait quelque chose d'un peu froid, d'un peu sec, d'un peu couturier, dans la façon dont s'habillait sa cousine, découvrirait dans cette stricte sobriété un raffinement exquis. D'ailleurs, entre elles, l'harmonie, l'universelle gravitation préétablie de leur éducation, neutralisait les contrastes, non seulement d'ajustement, mais d'attitude. À ces lignes invisibles et aimantées que l'élégance des manières tendait entre elles, le naturel expansif de la princesse venait expirer, tandis que vers elle, la rectitude de la duchesse se laissait attirer, infléchir, se faisait douceur et charme. Comme dans la pièce que l'on était en train de représenter, pour comprendre ce que la Berma dégageait de poésie personnelle, on n'avait qu'à confier le rôle qu'elle jouait, et qu'elle seule pouvait jouer, à n'importe quelle autre actrice. Le spectateur qui eût levé les yeux vers le balcon eût vu, dans deux loges, un arrangement qu'elle croyait rappeler ceux de la princesse de Guermantes, donné simplement à la baronne de Morienval l'air excentrique, prétentieux et mal élevé, et un effort à la fois patient et coûteux pour imiter les toilettes et le chic de la duchesse de Guermantes. Faire seulement ressembler Madame de Cambremer à quelque pensionnaire provinciale montée sur fil de fer, droite, sèche et pointue, un plumet de corbillard verticalement dressé dans les cheveux. Peut-être la place de cette dernière n'était-elle pas dans une salle où c'était seulement avec les femmes les plus brillantes de l'année que les loges, et même celles des plus hauts étages qui d'en bas semblaient de grosses bourriches piquées de fleurs humaines et attachées au cintre de la salle par les brides rouges de leur séparation de velours, composaient un panorama éphémère que les morts, les scandales, les maladies, les brouilles modifieraient bientôt, mais qui, en ce moment, était immobilisé par la tension, la chaleur, le vertige, la poussière, l'élégance et l'ennui, dans cette espèce d'instant éternel et tragique d'inconsciente attente et de calme engourdissement, qui, rétrospectivement, semble avoir précédé l'explosion d'une bombe ou la première flamme d'un incendie. La raison pourquoi Madame de Cambremer se trouvait là était que la princesse de Parme, dénuée de snobisme comme la plupart des véritables altesses, et en revanche dévorée par l'orgueil, le désir de la charité qui égalait chez elle le goût de ce qu'elle croyait les arts, avait cédé, çà et là, quelques loges à des femmes comme Madame de Cambremer, qui ne faisait pas partie de la haute société aristocratique, mais avec lesquelles elle était en relation pour ses œuvres de bienfaisance. Madame de Cambremer ne quittait pas des yeux la duchesse et la princesse de Guermantes, ce qui lui était d'autant plus aisé que, n'étant pas en relation véritable avec elle, elle ne pouvait avoir l'air de quêter un salut. Être reçue chez ces deux grandes dames était pourtant le but qu'elle poursuivait depuis 10 ans, avec une inlassable patience. Elle avait calculé qu'elle y serait sans doute parvenue dans 5 ans. Mais atteinte d'une maladie qui ne pardonne pas, et dont, se piquant de connaissances médicales, elle croyait connaître le caractère inexorable, elle craignait de ne pouvoir vivre jusque-là. Elle était du moins heureuse, ce soir-là, de penser que toutes ces femmes, qu'elle ne connaissait guère, verraient auprès d'elle un homme de leurs amis, le jeune marquis de Beausergent, frère de madame d'Argencourt, lequel fréquentait également les deux sociétés, et de la présence de qui les femmes de la seconde aimaient beaucoup à se parer sous les yeux de celles de la première. Il s'était assis derrière madame de Cambremer, sur une chaise placée en travers, pour pouvoir lorgner dans les autres loges. Il y connaissait tout le monde, et, pour saluer, avec la ravissante élégance de sa jolie tournure cambrée, de sa fine tête aux cheveux blonds, il soulevait à demi son corps redressé, un sourire à ses yeux bleus, avec un mélange de respect et de désinvolture, gravant ainsi avec précision dans le rectangle du plan oblique où il était placé, comme une de ces vieilles estampes qui figurent un grand seigneur hautain et courtisan. Il acceptait souvent de la sorte d'aller au théâtre avec madame de Cambremer. Dans la salle et à la sortie, dans le vestibule, il restait bravement auprès d'elle, au milieu de la foule des amis plus brillants qu'il avait là et à qui il évitait de parler, ne voulant pas les gêner, et comme s'il avait été en mauvaise compagnie. Si alors passait la princesse de Guermantes, belle et légère comme Diane, laissant traîner derrière elle un manteau incomparable, faisant se détourner toutes les têtes et suivie par tous les yeux, par ceux de madame de Cambremer plus que par tous les autres. Monsieur de Beausergent s'absorbait dans une conversation avec sa voisine, ne répondait au sourire amical et éblouissant de la princesse que contraint et forcé, et avec la réserve bien élevée et la charitable froideur de quelqu'un dont l'amabilité est peut-être devenue momentanément gênante. Madame de Cambremer n'eût-elle pas su que la baignoire appartenait à la princesse, qu'elle eût cependant reconnu que madame de Guermantes était l'invitée, à l'air d'intérêt plus grand qu'elle portait au spectacle de la scène et de la salle, afin d'être aimable envers son hôtesse. Mais en même temps que cette force centrifuge, une force inverse développée par le même désir d'amabilité, ramenait l'attention de la duchesse vers sa propre toilette, sur son aigrette, son collier, son corsage, et aussi vers celle de la princesse elle-même, dont la cousine semblait se proclamer la sujette, l'esclave, venue ici seulement pour la voir, prête à la suivre ailleurs s'il avait pris fantaisie à la titulaire de la loge de s'en aller, et ne regardant que comme composée d'étrangers curieux à considérer le reste de la salle, où elle comptait pourtant nombre d'amis dans la loge desquels elle se trouvait d'autres semaines, et à l'égard de qui elle ne manquait pas de faire preuve alors du même loyalisme exclusif, relativiste et hebdomadaire. Madame de Cambremer était étonnée de voir la duchesse ce soir. Elle savait que celle-ci restait très tard à Guermantes, et supposait qu'elle y était encore. Mais on lui avait raconté que parfois, quand il y avait à Paris un spectacle qu'elle jugeait intéressant, madame de Guermantes faisait atteler une de ses voitures, aussitôt qu'elle avait pris le thé avec les chasseurs, et, au soleil couchant, partait au grand trot, à travers la forêt crépusculaire, puis par la route, prendre le train à Combray pour être à Paris le soir. Peut-être vient-elle de Guermantes exprès pour entendre la Berma, pensait avec admiration madame de Cambremer. Et elle se rappelait d'avoir entendu dire à Swann, dans ce jargon ambigu qu'il avait en commun avec monsieur de Charlus, « La duchesse est un des êtres les plus nobles de Paris, de l'élite la plus raffinée, la plus choisie. » Pour moi qui faisais dériver du nom de Guermantes, du nom de Bavière et du nom de Condé, la vie, la pensée des deux cousines, je ne le pouvais plus pour leur visage puisque je les avais vus. J'aurais mieux aimé connaître leur jugement sur Phèdre que celui du plus grand critique du monde. Car dans le sien, je n'aurais trouvé que de l'intelligence supérieure à la mienne, mais de même nature. Mais ce que pensaient la duchesse et la princesse de Guermantes, et qui m'eût fourni sur la nature de ces deux poétiques créatures un document inestimable, je l'imaginais à l'aide de leur nom. J'y supposais un charme irrationnel et, avec la soif et la nostalgie d'un fiévreux, ce que je demandais à leur opinion sur Phèdre de me rendre, c'était le charme des après-midi d'été où je m'étais promenée du côté de Guermantes. Madame de Cambremer essayait de distinguer quelle sorte de toilette portaient les deux cousines. Pour moi, je ne doutais pas que ces toilettes ne leur fussent particulières, non pas seulement dans le sens où la livrée à col rouge ou à revers bleu appartenait jadis exclusivement aux Guermantes et aux Condé, mais plutôt comme pour un oiseau le plumage qui n'est pas seulement un ornement de sa beauté, mais une extension de son corps. La toilette de ces deux femmes me semblait comme une matérialisation neigeuse ou diaprée de leur activité intérieure. Et comme les gestes que j'avais vus faire à la princesse de Guermantes et que je n'avais pas douté correspondre à une idée cachée, les plumes qui descendaient du front de la princesse et le corsage éblouissant et pailleté de sa cousine semblaient avoir une signification, être pour chacune des deux femmes un attribut qui n'était qu'à elles et dont j'aurais voulu connaître la signification. L'oiseau de paradis me semblait inséparable de l'une, comme le paon de Junon. Je ne pensais pas qu'aucune femme pût usurper le corsage pailleté de l'autre plus que l'égide étincelante et frangée de Minerve. Et quand je portais mes yeux sur cette baignoire, bien plus qu'au plafond du théâtre où étaient peintes de froides allégories, c'était comme si j'avais aperçu, grâce au déchirement miraculeux des nuées coutumières, l'assemblée des dieux en train de contempler le spectacle des hommes, sous un vélum rouge, dans une éclaircie lumineuse entre deux piliers du ciel. Je contemplais cette apothéose momentanée avec un trouble que mélangeait de paix le sentiment d'être ignoré des immortels. La duchesse m'avait bien vue une fois avec son mari, mais ne devait certainement pas s'en souvenir, et je ne souffrais pas qu'elle se trouvât, par la place qu'elle occupait dans la baignoire, regarder les madrépores anonymes et collectifs du public de l'orchestre, car je sentais heureusement mon être dissous au milieu d'eux. Quand, au moment où, en vertu des lois de la réfraction, vint sans doute se peindre dans le courant impassible des deux yeux bleus, la forme confuse du protozoaire dépourvu d'existence individuelle que j'étais, je vis une clarté les illuminer. La duchesse, de déesse devenue femme, et me semblant tout d'un coup mille fois plus belle, leva vers moi la main gantée de blanc qu'elle tenait appuyée sur le rebord de la loge, l'agita en signe d'amitié. Mes regards se sentirent croisés par l'incandescence involontaire et les feux des yeux de la princesse, laquelle les avait fait entrer à son insu en conflagration rien qu'en les bougeant pour chercher à voir à qui sa cousine venait de dire bonjour. Et celle-ci, qui m'avait reconnue, fit pleuvoir sur moi la verse étincelante et céleste de son sourire. Maintenant, tous les matins, bien avant l'heure où elle sortait, j'allais, par un long détour, me poster à l'angle de la rue qu'elle descendait d'habitude. Et, quand le moment de son passage me semblait proche, je remontais d'un air distrait, regardant dans une direction opposée et levant les yeux vers elle dès que j'arrivais à sa hauteur. Mais comme si je ne m'y étais nullement attendu à la voir. Même les premiers jours, pour être plus sûr de ne pas la manquer, j'attendais devant la maison. Et chaque fois que la porte cochère s'ouvrait, laissant passer successivement tant de personnes qui n'étaient pas celles que j'attendais, son ébranlement se prolongeait ensuite dans mon cœur en oscillation qui mettait longtemps à se calmer. Car jamais fanatique d'une grande comédienne qu'il ne connaît pas, allant faire le pied de grue devant la sortie des artistes, jamais foule exaspérée ou idolâtre réunie pour insulter ou porter en triomphe le condamné ou le grand homme qu'on croit être sur le point de passer chaque fois qu'on entend du bruit venu de l'intérieur de la prison ou du palais, ne furent aussi émus que je l'étais, attendant le départ de cette grande dame qui, dans sa toilette simple, savait, par la grâce de sa marche, toute différente de l'allure qu'elle avait quand elle entrait dans un salon ou dans une loge, faire de sa promenade matinale. Il n'y avait pour moi qu'elle au monde qui se promena. Tout un poème d'élégance et la plus fine parure, la plus curieuse fleur du beau temps. Mais après 3 jours, pour que le concierge ne pût se rendre compte de mon manège, je m'en allais beaucoup plus loin, jusqu'à un point quelconque du parcours habituel de la duchesse. Souvent, avant cette soirée au théâtre, je faisais ainsi de petites sorties avant le déjeuner, quand le temps était beau. S'il avait plu, à la première éclaircie, je descendais faire quelques pas. Et tout d'un coup, venant sur le trottoir encore mouillé, changé par la lumière en lac d'or, dans l'apothéose d'un carrefour poudroyant d'un brouillard que tanne et blondit le soleil, j'apercevais une pensionnaire suivie de son institutrice ou une laitière avec ses manches blanches. Je restais sans mouvement, une main contre mon cœur qui s'élançait déjà vers une vie étrangère. Je tâchais de me rappeler la rue, l'heure, la porte sous laquelle la fillette, que quelquefois je suivais, avait disparu sans ressortir. Heureusement, la fugacité de ces images caressées et que je me promettais de chercher à revoir les empêchait de se fixer fortement dans mon souvenir. N'importe, j'étais moins triste d'être malade, de n'avoir jamais eu encore le courage de me mettre à travailler, à commencer un livre. La terre me paraissait plus agréable à habiter, la vie plus intéressante à parcourir, depuis que je voyais que les rues de Paris, comme les routes de Balbec, étaient fleuries de ces beautés inconnues, que j'avais si souvent cherché à faire surgir des bois de mes églises, et dont chacune excitait un désir voluptueux qu'elle seule semblait capable d'assouvir. En rentrant de l'opéra, j'avais ajouté pour le lendemain, à celle que depuis quelques jours je souhaitais de retrouver, l'image de Madame de Guermantes, grande, avec sa coiffure haute de cheveux blonds et légers, avec la tendresse promise dans le sourire qu'elle m'avait adressé de la baignoire de sa cousine. Je suivrai le chemin que Françoise m'avait dit que prenait la duchesse, et je tâcherai pourtant, pour retrouver 2 jeunes filles que j'avais vues l'avant-veille, de ne pas manquer la sortie d'un cours et d'un catéchisme. Mais, en attendant, de temps à autre, le scintillant sourire de Madame de Guermantes, la sensation de douceur qu'il m'avait donnée, me revenait. Et, sans trop savoir ce que je faisais, je m'essayais à les placer. Comme une femme regarde l'effet que ferait sur une robe une certaine sorte de bouton de pierrerie qu'on vient de lui donner. À côté des idées romanesques que je possédais depuis longtemps, et que la froideur d'Albertine, le départ prématuré de Gisèle, et avant cela la séparation voulue et trop prolongée d'avec Gilberte, avaient libéré. L'idée, par exemple, d'être aimée d'une femme, d'avoir une vie en commun avec elle. Puis, c'était l'image de l'une ou l'autre des 2 jeunes filles que j'approchais de ces idées auxquelles, aussitôt après, je tâchais d'adapter le souvenir de la duchesse. Auprès de ces idées, le souvenir de Madame de Guermantes à l'opéra était bien peu de chose, une petite étoile à côté de la longue queue de sa comète flamboyante. De plus, je connaissais très bien ces idées longtemps avant de connaître Madame de Guermantes. Le souvenir, lui, au contraire, je le possédais imparfaitement. Il m'échappait par moments. Ce fut pendant les heures où, de flottant en moi au même titre que les images d'autres femmes jolies, il passa peu à peu à une association unique et définitive, exclusive de toute autre image féminine, avec mes idées romanesques si antérieures à lui. Ce fut pendant ces quelques heures où je me le rappelais le mieux que j'aurais dû m'aviser de savoir exactement quel il était. Mais je ne savais pas alors l'importance qu'il allait prendre pour moi. Il était doux seulement comme un premier rendez-vous de Madame de Guermantes en moi-même. Il était la première esquisse, la seule vraie, la seule faite d'après la vie, la seule qui fut réellement Madame de Guermantes. Durant les quelques heures où j'eus le bonheur de le détenir, sans savoir faire attention à lui, il devait être bien charmant pourtant, ce souvenir, puisque c'est toujours à lui, librement encore à ce moment-là, sans hâte, sans fatigue, sans rien de nécessaire ni d'anxieux, que mes idées d'amour revenaient. Ensuite, au fur et à mesure que ces idées le fixèrent plus définitivement, il acquit d'elles une plus grande force, mais devint lui-même plus vague. Bientôt, je ne sus plus le retrouver. Et dans mes rêveries, je le déformais sans doute complètement, car chaque fois que je voyais Madame de Guermantes, je constatais un écart, d'ailleurs toujours différent, entre ce que j'avais imaginé et ce que je voyais. Chaque jour maintenant, certes, au moment que Madame de Guermantes débouchait au haut de la rue, j'apercevais encore sa taille haute, ce visage au regard clair sous une chevelure légère, toutes choses pour lesquelles j'étais là. Mais en revanche, quelques secondes plus tard, quand, ayant détourné les yeux dans une autre direction pour avoir l'air de ne pas m'attendre à cette rencontre que j'étais venu chercher, je l'élevais sur la duchesse au moment où j'arrivais au même niveau de la rue qu'elle. Ce que je voyais alors, c'était des marques rouges dont je ne savais si elles étaient dues au grand air ou à la coupe rose, sur un visage maussade qui, par un signe fort sec et bien éloigné de l'amabilité du soir de Phèdre, répondait à celui que je lui adressais, quotidiennement, avec un air de surprise et qui ne semblait pas lui plaire. Pourtant, au bout de quelques jours pendant lesquels le souvenir des deux jeunes filles lutta avec des chances inégales pour la domination de mes idées amoureuses avec celui de Madame de Guermantes, ce fut celui-ci, comme de lui-même, qui finit par renaître le plus souvent pendant que ses concurrents s'éliminaient. Ce fut sur lui que je finis par avoir, en somme volontairement encore, et comme par choix et plaisir, transféré toutes mes pensées d'amour. Je ne songeais plus aux fillettes du catéchisme, ni à une certaine laitière. Et pourtant, je n'espérais plus de retrouver dans la rue ce que j'étais venu y chercher, ni la tendresse promise au théâtre dans un sourire, ni la silhouette et le visage clair sous la chevelure blonde, qui n'étaient elles que de loin. Maintenant, je n'aurais même pu dire comment était Madame de Guermantes, à quoi je la reconnaissais, car chaque jour, dans l'ensemble de sa personne, la figure était autre, comme la robe et le chapeau. Pourquoi tel jour, voyant s'avancer de face sous une capote mauve une douce et lisse figure, aux charmes distribués avec symétrie autour de deux yeux bleus, et dans laquelle la ligne du nez semblait résorbée, apprenais-je d'une commotion joyeuse que je ne rentrerais pas sans avoir aperçu Madame de Guermantes? Pourquoi ressentais-je le même trouble? Affectais-je la même indifférence? Détournais-je les yeux de la même façon distraite que la veille à l'apparition de profil dans une rue de traverse et sous un toquet bleu marine, d'un nez en bec d'oiseau, le long d'une joue rouge barrée d'un œil perçant, comme quelque divinité égyptienne? Une fois, ce ne fut pas seulement une femme à bec d'oiseau que je vis, mais comme un oiseau même. La robe et jusqu'au toquet de Madame de Guermantes étaient en fourrure, et, ne laissant ainsi voir aucune étoffe, elle semblait naturellement fourrée, comme certains vautours dont le plumage épais, uni, fauve et doux, a l'air d'une sorte de pelage. Au milieu de ce plumage naturel, la petite tête recourbait son bec d'oiseau et les yeux à fleur de tête étaient perçants et bleus. Tel jour, Je venais de me promener de long en large dans la rue pendant des heures sans apercevoir Madame de Guermantes, quand tout d'un coup, au fond d'une boutique de crémiers cachée entre deux hôtels dans ce quartier aristocratique et populaire, se détachait le visage confus et nouveau d'une femme élégante qui était en train de se faire montrer des petits Suisses et, avant que j'eusse eu le temps de la distinguer, venait me frapper, comme un éclair qui aurait mis moins de temps à arriver à moi que le reste de l'image, le regard de la duchesse. Une autre fois, ne l'ayant pas rencontrée et entendant sonner midi, je comprenais que ce n'était plus la peine de rester à attendre. Je reprenais tristement le chemin de la maison et, absorbé dans ma déception, regardant sans la voir une voiture qui s'éloignait, je comprenais tout d'un coup que le mouvement de tête qu'une dame avait fait de la portière était pour moi et que cette dame, dont les traits dénoués et pâles, ou au contraire tendus et vifs, composaient sous un chapeau rond, au bas d'une haute aigrette, le visage d'une étrangère que j'avais cru ne pas reconnaître, était Madame de Guermantes, par qui je m'étais laissé saluer sans même lui répondre. Et quelquefois, je la trouvais en rentrant au coin de la loge où le détestable concierge, dont je haïssais les coups d'œil investigateurs, était en train de lui faire de grands saluts et sans doute aussi des rapports. Car tout le personnel des Guermantes, dissimulé derrière les rideaux des fenêtres, épiait en tremblant le dialogue qu'il n'entendait pas, et à la suite duquel la duchesse ne manquait pas de priver de ses sorties tel ou tel domestique que le pipelet avait vendu. À cause de toutes les apparitions successives de visages différents qu'offrait Madame de Guermantes, visages occupant une étendue relative et variée, tantôt étroite, tantôt vaste, dans l'ensemble de sa toilette, mon amour n'était pas attaché à telle ou telle de ces parties changeantes de chair et d'étoffe, qui prenaient, selon les jours, la place des autres, et qu'elle pouvait modifier et renouveler presque entièrement, sans altérer mon trouble, parce qu'à travers elle, à travers le nouveau collet, la joue inconnue, je sentais que c'était toujours Madame de Guermantes. Ce que j'aimais, c'était la personne invisible qui mettait en mouvement tout cela. C'était elle dont l'hostilité me chagrinait, dont l'approche me bouleversait, dont j'eusse voulu capter la vie et chasser les amis. Elle pouvait arborer une plume bleue ou montrer un teint de feu sans que ses actions perdissent pour moi de leur importance.